carnet de festivalier
sur Radio Scarpe Sensée
au Arras Film Festival. Arras Film Festival, 26e édition, jour 5, 11 novembre, il est 18h50, la réalisatrice Gaïa Gigi est avec moi au village du festival pendant une vingtaine de minutes. Bonjour.
Bonjour.
En ce jour, vous présentez l'étrangère Selma, fuit la Syrie en laissant derrière elle sa famille. Arrivée à Bordeaux, elle fait connaissance de Jérôme, un avocat qui va l'aider à obtenir le droit d'asile et retrouver son fils. Dès la première séquence, vous nous immergez dans la mer avec les réfugiés syriens. Une séquence qui frappe fort dès le début. C'était votre choix?
Enfin, en fait, c'était oui, d'une certaine façon, de montrer ce voyage dangereux que les émigrés syriens ou peut-être d'autres aussi ont traversé. Et c'est aussi pour montrer, d'une certaine façon, que ces gens-là risquent leur vie vraiment parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'avoir une nouvelle vie. Ils ont fui vraiment des choses atroces. Ils arrivent sur cette nouvelle terre, pas pour toucher les aides sociales ou uniquement, comme certains veulent laisser penser. Mais c'est vraiment, ils fuient la mort, ils fuient le danger. Et puis au fur et à mesure aussi, on va voir que Selma aussi fuit d'autres choses en fait. Elle fuit l'attente de son mari qui est en prison. Elle fuit la détresse, la solitude, à la recherche vraiment d'une nouvelle vie pour elle et pour son fils.
Et puis cette nouvelle vie, ça passe par des petits gestes, être plongeuse dans un restaurant, être femme de ménage, être présente ici. Une vie qu'elle veut installer, mais toujours sans papier. Sa famille, elle, est restée en Syrie. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vit les conflits, la guerre, par le biais du téléphone.
Exactement. Là, la guerre dans ce film existe par le téléphone, enfin par le son, par la voix de sa mère, la voix de son fils. J'ai voulu vraiment, j'ai pas voulu montrer des images, j'ai voulu vraiment que ça soit présent que par le son et que ce son-là montre la violence de cette guerre et ça sera aussi l'élément qui laisse cette femme vivre un vrai conflit entre sa volonté d'avoir une nouvelle vie et pas uniquement avoir ses papiers. Cette femme a envie de vivre et pas uniquement de survivre. Elle a envie de désirer, elle a envie de tomber amoureuse, mais en même temps, elle est toujours rattrapée par son pays, par ce qui se passe dans son pays, ce qui arrive à son fils, son mari qui a disparu dans les geôles de l'ancien régime. Donc j'ai voulu que le son vraiment soit le marqueur de la guerre en Syrie et pas l'image.
C'est une autre vision de la guerre par le son.
Exactement, en fait, et j'ai voulu vraiment aussi montrer que le son peut avoir aussi un effet très violent. Et peut-être ça aussi un truc personnel, parce que moi j'avoue, je vivais à Damas, je suis damascène, et Damas pendant un certain moment, c'était la ville un peu la plus protégée de ce qui se passait dans le reste du pays. En même temps, moi où j'habitais, j'entendais les bombardements. Je ne les voyais pas, mais je les entendais. Pour moi, à travers les images que je voyais à la télé, je n'ai pas vu directement la guerre. Je ne l'ai pas vécu, d'une façon directe. Je l'ai vécu par le son. Et j'ai voulu transmettre ça dans mon film. Que faire vivre la guerre en Syrie dans le film par le son.
je repense à cette scène où on est au téléphone et c'est vrai que c'est instantané, hein. Il peut se passer à tout moment, il y a une explosion juste à côté très fort. On imagine évidemment le pire. On vous invite, auditeurs, à voir le film pour écouter cette séquence, mais elle est très très forte émotionnellement. Même pour vous, je pense.
Oui, oui, oui. Et même pendant le tournage, c'était vraiment un moment, je m'en rappelle, c'était un des moments des plus forts pendant le tournage. Et Zar, vraiment, elle était même... elle a tellement donné pour cette séquence qu'elle était très épuisée émotionnellement après. Parce que voilà, c'est une mère qui pense qu'à un moment qu'elle a perdu son fils. Et elle est loin, elle ne peut rien faire. Voilà, je ne veux pas trop dévoiler le film, mais elle entend un bombardement, elle entend son fils qui appelle sa grand-mère. Et elle est loin. Et elle est venue en France pour faire venir son fils, pour sauver cet enfant de la guerre. Et à un moment, elle pense qu'elle l'avait perdu et qu'elle est complètement impuissante. Enfin, il y a aussi à ce moment-là une sorte de culpabilité très forte.
Comment elle a été fabriquée ? Est-ce que la comédienne était bien sûr au courant de la séquence, était au courant du son? Est-ce que c'était en son direct? Est-ce que c'était au montage? Pour avoir tellement cette émotion et cette intensité du jeu de l'actrice.
Par rapport à la préparation de cette séquence, c'est une séquence qu'on a travaillée pendant la répétition. Mais bon, bien sûr, on ne l'a pas répété avec beaucoup d'émotions parce que voilà, il faut laisser aussi la fraîcheur pour l'actrice de pouvoir jouer. Donc, on a enregistré la voix du petit garçon, la voix de la mère, et on a laissé, enfin, Zar entendre ça. Pendant le tournage, on a beaucoup parlé. Enfin, c'est aussi tout ce qu'il y avait avant. Enfin, on a travaillé avec Zar de préparer ce moment en pensant, même si on n'avait pas tourné en continuité, de travailler ensemble, moment par moment, tout ce qu'elle a vécu, cette femme, avant. Et que puis, il y a ce moment qui arrive et qui arrive d'un coup en fait et qui elle lui laisse penser que elle a perdu son fils, donc elle a tout perdu en fait, que peut-être elle a fait tout ce voyage pour rien, enfin c'est ça.
Comment vous l'avez représenté justement, Selma? Est-ce que c'est plusieurs réfugiées syriennes en une? Comment vous êtes documenté pour ce film?
Bon, d'abord, je dois dire que Selma, il y a une grande partie de moi en Selma. Même dans mon premier long métrage, mon tissu préféré, il y a un côté très personnel. Moi, je me sens vraiment besoin toujours de partir de quelque chose très personnel, qui m'émeut, que j'ai vécu, de partir de mes souffrances pour écrire mon film. Donc Selma, même si moi je n'ai pas vécu exactement ce qu'elle a vécu, moi je n'ai pas traversé la mer pour venir en France, j'ai eu la chance de venir en avion, je n'ai pas laissé derrière moi un fils ou un mari disparu dans les geôles de Bachar el-Assad, mais j'ai vécu l'exil. Et j'ai vécu aussi ce combat quotidien de vouloir me reconstruire et de vouloir vivre et pas uniquement survivre sans être tout le temps rattrapé par le passé, par ce qui se passe dans notre pays. On ne réussit pas toujours, mais c'est ça, enfin, c'est ça aussi, parce que en arrivant sur cette nouvelle terre, il y a le grand combat pour avoir les papiers, tout ça. Mais il y a aussi, enfin, nous sommes des êtres humains. On a envie de désirer, on a envie de tomber amoureux. C'est ça aussi. Donc, Selma porte une grande partie de moi. Mais c'est aussi, enfin, j'ai Et c'est aussi des histoires des autres réfugiés. Enfin, j'ai fait vraiment un vrai travail de documentation avec des réfugiés pour savoir tout le parcours administratif, le voyage, le danger de ce voyage qu'ils ont traversé en Hongrie, notamment. Donc oui, il y avait un vrai travail de documentation, mais il y avait quelque chose beaucoup aussi très personnel.
On le voit dans ce film, il y a beaucoup d'humanité finalement avec ce personnage de Selma. Et voilà, c'est vrai qu'on voit beaucoup ces images de réfugiés à la télévision, mais là on la voit en train de travailler, en train d'avoir une vie, en train d'être amoureuse. Vous lui donnez déjà un prénom, vous lui donnez un visage, vous lui donnez une voix aussi. Et c'est ça, il y a beaucoup d'humanité dans ce film.
On voit beaucoup d'images des réfugiés envoyés pendant un moment, énormément, surtout entre les années 2014-2017. Maintenant, on voit moins. Mais ce qui me fait très mal, c'est que toujours ces gens, on les voit comme une masse. Et moi, j'ai voulu montrer ce qu'il y a derrière ces images, enfin, c'est ce qu'il y a derrière ces visages aussi. C'est qu'ils sont des gens aussi, voilà, comme je viens de dire, qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré tout ce qu'ils ont traversé, mais ils ont encore tout ce qu'un être humain porte, en fait, en lui, la volonté de vivre, la volonté d'être visible aussi, parce que cette femme reste pendant un bon moment du film invisible. Et c'est son histoire avec cet avocat qui, à un moment, lui dit t'es une femme courageuse par rapport à ce que tu as fait. Et à travers cette histoire d'amour, elle devient visible. Et en même temps, enfin, Jérôme, l'avocat, avance lui aussi de son côté. Enfin, cette rencontre change une grande chose pour les deux.
Et justement, l'avocat demande aussi de raconter aussi le parcours de Selma pour l'OFPRA, justement, pour les demandes de papier, pour la demande de droit d'asile. Moi, ça me fait penser aussi à ces réfugiés qui vivent l'enfer aussi sur le parcours. Tes eux aussi, qui gagnent tout pour eux et qui doivent tout dire, tout expliquer, prouver que chez eux, c'est la guerre. Pourquoi fuir leur pays et de raconter ça devant l'OFPRA. C'est ça aussi, c'est un labyrinthe aussi judiciaire que vous voulez aussi montrer.
Oui, et c'est surtout pour moi, c'est l'absurdité. Parce que je trouve que toujours, dans ces procédures, il y a toujours quelque chose d'absurde. Déjà par la procédure Dublin, que voilà, enfin, il faut enregistrer ses empreintes dans le premier pays qu'un immigré traverse, même si ce pays ne veut pas du tout d'immigrés, comme les pays d'Hongrie ou de la Bulgarie, où il y a vraiment des gouvernements plutôt d'extrême droite. Et enfin, ils ne veulent pas du tout de ces immigrés. Et en même temps, on les oblige à laisser leurs empreintes. C'est ce qui complique énormément leur procédure dans d'autres pays, en arrivant en Allemagne ou en France ou en Angleterre. Donc déjà, il y a ce côté absurde. Et puis, il y a l'absurdité aussi que ces gens, quand ils fassent le processus pour le droit d'asile, j'ai l'impression qu'on oublie que ces gens, ils ont aussi une vie antérieure. Ça veut dire qu'on veut, voilà, on veut juste savoir que c'est quoi le danger qu'ils ont vécu. Mais on oublie dans l'administration que ces gens avaient une vie où il y avait aussi des moments heureux. Mais là, ils sont juste un numéro et ils doivent justifier à tout prix pourquoi ils ont quitté leur pays. Alors que pour moi, je pense que quand tu quittes un pays en guerre, c'est que tu fuis la mort, enfin.
J'ai appris ça dans ce film, c'est que des femmes ne veulent plus mettre leurs empreintes et se mutilent le bout bout des doigts pour ne plus avoir d'empreintes. Voilà, vous avez, c'est des témoignages que vous avez entendus, voilà. Je ne savais pas ça.
Moi aussi, c'est quelque chose que, enfin, pendant mes recherches, pendant le travail de documentation que j'ai fait, j'ai découvert en fait cette histoire et quelque chose qui a enrichi le film. Et j'étais vraiment choquée de voir qu'il y a certaines femmes, il y a certains hommes aussi, que ça soit des Africains, des Afghans, qui font ça, soit par se faire mutiler les doigts ou parfois de se faire brûler les doigts avec l'acide en fait pour cacher leurs empreintes parce que ils avaient laissé leurs empreintes quelque part et voilà, je trouvais ça d'une violence absolue. Et pour moi aussi, c'est enfin cacher tes empreintes, c'est comme si tu fais, tu brises quelque chose de ton identité, en fait. Ouais. C'est ça.
On efface une partie de soi, voilà. On les rend encore plus invisibles.
Voilà, on efface une partie de soi et c'est exactement comme vous venez de dire, on devient encore plus invisible.
Il y a une torture donc physique et puis une torture aussi morale, notamment, elle en parle, Selma, pour les institutions. C'est montrer que cette torture en Syrie devient presque institutionnelle, entre guillemets, et ça, vous le dénoncez.
Oui, bien sûr. J'ai voulu montrer par ça d'abord que cette femme aussi, elle fuit la guerre, elle veut avoir une vie meilleure pour son fils, mais elle fuit aussi l'attente. Cette attente qui l'empêche de se libérer, d'avoir une nouvelle vie, même si elle était très amoureuse de son mari, elle a tout fait pour le chercher. Et bien sûr, je veux dénoncer ça. Et tout ce que se passait dans les prisons syriennes et tout ce qui est, je pense maintenant en Europe, on sait avec les documents qui ont été dévoilés après la chute du régime, ce que ça veut dire, les prisons politiques en Syrie.
On parle du manque dans ce film et il y a une phrase forte dans ce film, être habitué au manquement. Est-ce qu'on est vraiment habitué au manquement?
C'est ça, c'est ça aussi le film, c'est un peu ça, c'est vraiment le combat de cette femme en dehors de son combat administratif. C'est comment se reconstruire avec tout ce qu'elle a laissé derrière. Pour moi, c'est toujours ce conflit entre cette volonté de vouloir vivre et en même temps tout ce qu'on a laissé derrière nous et la culpabilité. C'est surtout la culpabilité qui nous habite quotidiennement presque.
Dernière question dans ce film, c'est le récit de Selma et vous le racontez. Écrire et raconter, c'est pas la même chose.
Oui, parce que je trouve que en racontant, et surtout que, pour la procédure de l'OFPRA, il faut d'abord écrire ton histoire et puis raconter cette histoire. Et pour moi, je trouve que raconter, ça peut se poser aussi des détails comme le son, le ton, tout ça, tous ces détails-là qui peuvent révéler la vérité ou pas. Donc la vérité est en jeu là entre le mot écrit et comment ce mot se traduit en se transformant par un mot dit. C'est ça.
Merci beaucoup, Gaïa Gigi, donc réalisatrice de L'étrangère au Arras Film Festival.
Sur Radio Scarpe Sensée.
Carnet de festivalier au Arras Film Festival.